France Culture.
Bonjour le Book Club. J'ai profité de la nouvelle traduction que les éditions Zulma ont proposée des frères Karamazov pour enfin me lancer, parce que c'est un livre qui me faisait un peu peur. Et en fait, il m'a plu énormément. J'ai adoré toutes les péripéties, les personnages envoûtants et inoubliables, les questions philosophiques et existentielles. C'est un roman finalement qui est bourré d'humanité, mais dans tous les sens du terme.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Entre 1879 et 1880, Fiodor Dostoïevski fait paraître les frères Karamazov en feuilleton dans la revue Le Messager russe. Parallèlement, il lit des extraits de son texte en cours dans les salons littéraires qu'il fréquente. La filiation et la fratrie sont les deux grandes arches de ce vaste roman, sur lesquelles viennent se tresser, ni plus ni moins, que la question de l'existence de Dieu, celle de l'amour, celle de la honte, celle de la mort et du meurtre, du désir, de la jalousie, dans une fiévreuse et communicative ivresse du langage, de la joute et de la confession. Sophie Bénèche fait une lecture déterminante des frères Karamazov à l'adolescence. Les éditions Zulma lui proposent bien des années plus tard de retraduire ce texte mythique et tant commenté. Elle est l'invitée de votre book club. Ensuite, et comme chaque mardi, on parlera littérature jeunesse avec Mathilde Wagman. Aujourd'hui, elle évoque un génial manuel d'éveil olfactif. On est ensemble pour une heure. C'est peu, évidemment, mais c'est bien. Bienvenue à tous et à toutes dans le Book Club. Bonjour Sophie Bénèche.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir pour cette nouvelle traduction des frères Karamazov de Dostoïevski parue aux éditions Zulma. Je le dis parce que vous le racontez. Vous découvrez ce texte à l'adolescence et il vous fait une impression forte. Vous dites parfois que c'est une lecture déterminante qui a peut-être tracé bien des routes que vous avez suivies ensuite. Commençons par l'impression forte et puis voyons quelle route elle aurait pu tracer cette lecture.
En général, on dit tout, beaucoup de gens disent que un ou deux livres ont joué un grand rôle dans leur vie. Et moi, je dois dire que c'est vrai, les frères Karamazov ont joué un grand rôle dans ma vie. Dans le sens où je pense qu'ils ont déterminé toute ma façon de concevoir, une grande partie de ma façon de concevoir le monde, le mal, le bien, enfin, toutes les grandes questions philosophiques et l'approche de la souffrance, de la liberté. Je sais que par exemple, ça a une grande influence sur la façon dont j'ai considéré les idéologies, de façon générale, qu'elles soient le communisme et puis d'autres idéologies. Immédiatement, dès l'âge de 15 ans, ça m'a vaccinée, par exemple, contre certaines idéologies.
J'allais vous demander si c'était immédiat ou si c'était dans l'après-coup, avec les traces qu'avait pu laisser cette lecture, ouais, que vous avez comme armée ensuite.
Je pense que c'était immédiat. Ça a vraiment opéré un retournement dans ma façon de... Enfin, un retournement. J'avais que 15 ans, donc... Mais quand même, ça a profondément influencé ma façon de vivre aussi, je pense.
Comment vous vous retrouvez avec les frères Karamazov dans les mains à 15 ans?
Oh... Mon père a toujours une immense bibliothèque extrêmement éclectique. Donc, je l'ai trouvé dans sa bibliothèque, je pense.
Est-ce que vous cherchiez quelque chose à ce moment-là?
Non, je piochais un peu partout dans sa bibliothèque. J'essayais, et puis dès quelque chose me plaisait, je m'enfonçais dans un domaine particulier. Et là, j'ai trouvé les frères Karamazov. Dans la traduction, je dirais, qui est dans le livre de poche maintenant, d'Elisabeth Gertik.
Est-ce que vous aviez un appétit pour la littérature russe?
Pas obligatoirement, pas forcément à cet âge-là, mais j'avoue que là, ça m'a donné envie de lire de la littérature russe, oui.
Alors, vous disiez, ça m'a vacciné contre les idéologies, ça m'a permis de peut-être ancrer ma vie dans un certain rapport au bien et au mal, ce qui est quand même en effet fondamental. Sophie Bénèche, on l'entendra, j'espère, tout à l'heure, dans ce qu'on peut dire aujourd'hui trop rapidement des frères Karamazov. Qu'est-ce que ça a tiré d'autre comme grande ligne de vie pour vous, ensuite, cette lecture déterminante?
Sans doute que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'apprendre le russe un peu plus tard, après avoir fait des études de lettres classiques, et de partir en Russie travailler. Donc je pense que ça a eu, effectivement, l'envie de lire les frères Karamazov dans le texte a été une des raisons pour lesquelles j'ai fait du russe.
Donc c'est pas rien.
Non, c'était une des raisons déterminantes. Bon, il y en a eu d'autres, mais là, c'est vrai que ça a été important.
Quand vous dites lire les frères Karamazov dans le texte, vous allez donc vous y adonner pendant de nombreux mois, voire...
Non, en fait, quand j'ai... C'est le premier livre que j'ai lu en russe. Parce que j'ai appris le russe un peu par oral, enfin, pas, j'ai pas fait d'études de russe. Et quand je me suis sentie capable, le premier livre que j'ai eu envie de lire, c'était celui-là. Mais j'ai l'impression que je le connaissais presque par cœur, donc je sais même pas si c'est vraiment parce que j'arrivais à comprendre ou si c'est parce que j'avais des souvenirs de ce que j'avais déjà lu, en français bien sûr.
Il y a du temps qui a passé quand même entre votre adolescence, Sophie Bénèche, et la proposition des éditions Zuma.
Oui, énormément.
Quelques années.
Oui, quelques années, comme vous dites. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec ce texte-là pendant ces années-là, Sophie Bénèche? Est-ce que vous y revenez régulièrement? Est-ce que vous le relisez? Est-ce que, par exemple, les nouvelles traductions vous font vous repencher dessus? Comment ça se passe pour vous?
Je pense pas que je l'ai relu si souvent que ça en entier. J'ai dû le relire 2 ou 3 fois en russe. Et sinon, oui, je revenais à des passages, certains passages, bon, la légende du grand inquisiteur, bien sûr, mais d'autres passages aussi, c'est pas les passages dont on parlera peut-être tout à l'heure, des rapports d'Alyosha avec les enfants. Mm-hmm. Il y a des passages qui m'ont énormément marqué, donc je revenais sur certains passages. À l'occasion de traductions, de nouvelles traductions, enfin surtout celle qui parut en 2002, oui, bien sûr, j'ai été regardée parce que ça m'intéresse toujours énormément d'aller voir ce qu'ont fait mes collègues. Et ça m'intéresse de voir les différentes traductions du même texte. Donc oui, à l'époque, j'avais regardé. Mais je m'étais dit que jamais on me proposera de retraduire après les retraductions d'André Markovitch.
Qu'est-ce que vous avez, alors, comment vous avez accueilli cette proposition des éditions Zulma?
Ça m'a étonnée énormément. Et puis, moi qui avais envie de mettre un peu la pédale douce et de travailler un peu moins, je me suis dit non, là, je peux pas refuser. Mais en fait, j'ai proposé à Laure Leroy de faire un essai, en fait, de traduire 5 ou 6 chapitres comme ça pour qu'elle voit si elle, ça lui plaisait ma façon de traduire, si moi je me sentais capable et si la traduction, le texte auquel j'aboutissais en français était suffisamment différent des traductions précédentes pour que ça justifie une nouvelle traduction, quoi.
Et alors, vous en êtes rendu compte rapidement? Comment ça s'est passé?
Moi, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de le faire. Après ça, c'était à elle de décider. Et elle a souhaité continuer. Ça lui a beaucoup plu, donc, et ça lui a... Ça a été d'autant plus, difficile, c'est que, en fait, 3 mois après qu'on ait signé le contrat, on a appris la nouvelle parution d'Emma Lavigne, qui allait paraître...
Qui était une autre traduction, en effet, ouais.
Ce qui est toujours le danger quand on publie des textes qui sont dans le domaine public, c'est qu'on n'est pas au courant. Donc là, je lui ai dit, bon, bah, tant pis, on arrête, hein, si vous voulez, on arrête. Moi, je comprends très bien le problème éditorial que ça vous poserait. Elle m'a dit, non, on continue. Et donc, voilà. Mais on recule d'un an, ce qui m'a donné 1 an de plus pour le faire, tant mieux. Et puis, parce que je travaille assez lentement, et j'aime bien avoir du temps devant moi. Donc, du coup, on a attendu 1 an de plus pour le publier, et voilà. Alors, raison pour laquelle il y a ces 2 traductions si proches, d'ailleurs. En fait, c'est un peu un hasard, si je puis dire.
Mais c'est comme ça.
C'est comme ça, oui.
Et c'est intéressant, peut-être, de voir qu'il y a à un moment donné des éditeurs, des éditrices qui s'intéressent
tout à fait,
Karamazov, oui. Dans une époque. Moi, j'avoue que, en effet, c'est toujours très tentant de relire ces textes-là sans les tirer vers le contemporain, mais de voir qu'est-ce que ça fait vibrer dans notre présent à l'échelle intime comme à l'échelle collective.
D'autant plus que c'est quand même un livre très, très important et il n'existait pas tant de traductions disponibles que ça. Hein. En fait, il existait les traductions de Folio, du livre de poche et celle de Markovitch, ça fait que 3 traductions en fait. Les autres étaient assez anciennes, hein, des années 30, 40. Et 2002, ça fait déjà plus de 20 ans.
Donc accueillons avec joie ce nouveau projet. Je le disais au départ, c'est un livre qui paraît en feuilleton. Est-ce qu'on peut dire un mot, Sophie Bénèche, du contexte de l'écriture, de publication, de la manière dont c'est reçu, peut-être du moment où Dostoïevski se trouve dans sa propre carrière littéraire, au moment où il travaille sur les frères Karamazov?
En fait, je suis pas une grande spécialiste de Dostoïevski, mais il était déjà connu, célèbre lorsqu'il a écrit son dernier roman, donc pas très longtemps avant sa mort. Donc il était déjà célèbre, publié en feuilleton parce qu'il avait toujours des problèmes d'argent, donc un peu comme faisait Alexandre Dumas ou certains auteurs français de l'époque, ou Victor Hugo. Je dis en passant qu'il avait une très grande admiration pour Victor Hugo, Dostoïevski. Et donc, c'est paru en feuilleton, donc on peut se dire que effectivement, un livre qui paraît en feuilleton, l'auteur n'a peut-être pas tout le livre dans la tête et la construction du livre, construction du livre se fait au fur et à mesure des publications. Peut-être que ça peut expliquer certaines, pas incohérences, je dirais pas ça, mais certaines
manières d'avancer ou certaines manières peut-être. Parfois aussi qu'à l'intrigue, on va le dire, qui tourne notamment autour d'un parricide et d'un meurtre, le fait de devoir à chaque fois se remémorer bah, des questions de procès, des questions de récit, des questions d'interrogatoire, la manière dont les choses se sont passées, le fait de reprendre, peut-être que ça peut être une des formes...
Peut-être, mais en même temps, je dis, il avait peut-être pas tout le livre dans sa tête, mais... Quand on regarde un peu ses carnets, il avait une façon de travailler où il avait des scènes qui s'imposaient, des personnages qui changeaient. Certains dialogues entre certains personnages se transformaient, passaient, certains personnages devenaient d'autres personnages. Donc c'était vraiment un travail qui se faisait dans sa tête de manière constante et extrêmement changeante aussi, qui se transformait au fur et à mesure que ses personnages évoluaient d'une manière dont qu'il n'avait peut-être pas prévu.
Vous parliez tout à l'heure de la manière dont ça vous a vacciné contre les idéologies politiques, Sophie Benesch, ou les idéologies tout court. Il se trouve que Dostoïevski publie et écrit ce texte dans un contexte politique de la Russie. Qu'est-ce qu'on peut en dire qui nous intéresserait aujourd'hui pour évoquer la réception des frères Karamazov ?
Une réflexion que je me ferais, c'est que Dostoïevski, quand il écrivait des articles ou quand il avait des positions politiques ou sociales, enfin des positions dans des articles qu'il écrivait, c'était pas le même Dostoïevski que celui qui écrivait ses romans. Très étrangement, quand il réfléchissait, quand il utilisait son intelligence pour réfléchir, je veux pas dire, il disait parfois des bêtises, mais c'est beaucoup moins intéressant que ce qu'il y a dans ses romans. Dans ses romans, il arrive à travers ses personnages et les intrigues à incarner des idées d'une manière à la fois contradictoire, extrêmement riche comme la vie. Alors que quand il réfléchit et qu'il donne des idées,
un point de vue plus arrêté,
c'est moins intéressant. C'est comme si inconsciemment, quand il écrivait ses romans, quelque chose passait qui passait à travers son inconscient et qui était mille fois plus profond et plus riche et plus vivant en fait que ses pensées intellectuelles, si je puis dire. Donc c'est assez étonnant. Hein. C'est souvent le cas. Bon, je veux pas dire que quand on est un créateur, on doit pas être trop intelligent, mais les gens très très intelligents, j'ai remarqué que les gens très très intelligents qui ont une intelligence très critique et très affûtée, analytique, c'est pas toujours des bons créateurs. Qu'un créateur, parfois, il y a quelque chose qui passe à travers lui et qui le dépasse en fait. Surtout Dostoïevski. En particulier,
on va y entrer. Les frères Karamazov, c'est aussi un roman sur la jeunesse. Les protagonistes sont jeunes. Vous disiez tout à l'heure que vous reveniez souvent, Sophie Benesch, à la relation qu'a notamment l'un des frères Karamazov avec les enfants. Il y a un chapitre qui s'appelle La Marmaille. Il y a ce mot les mioches que vous traduisez. On y reviendra peut-être. On s'est dit que c'était intéressant d'entendre un groupe contemporain russe, peut-être pour aller vers le cœur du roman. Уже близко, давай с головой. Отменяй таксиста, нам не нужно больше домой.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Nous travaillons avec les mots, et les mots existent dans la voix humaine. Et c'est ce que Dostoïevski n'oublie jamais.
Un book club de France Culture consacré cet après-midi aux frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski à l'occasion de la parution d'une nouvelle traduction aux éditions Zulma, signée par vous, Sophie Bénèche. On a évoqué à l'instant le contexte d'écriture et de parution de ce texte. On a évoqué aussi la lecture que vous avez faite de ce texte pendant l'adolescence, entrant dans le vif du sujet, comme le dit le texte. On entendait à l'instant cette courte archive de Steiner en 63 parler des voix chez Dostoïevski. Voici celle d'un des frères, Dimitri. J'avance, et je ne sais pas si je suis tombée dans la puanteur et la turpitude, ou bien dans la lumière et la joie. C'est ça le malheur, car tout est une énigme sur Terre. Quand il m'arrivait de m'enfoncer dans la turpitude de la débauche la plus profonde, et je n'ai fait que ça, je me récitais toujours ce poème sur Cérès et les hommes. Est-ce que cela me corrigeait? Jamais. Parce que je suis un Karamazov. Parce que si je me précipite dans l'abîme, alors j'y vais carrément, les pieds en l'air et la tête en bas. Et je suis même content de tomber justement dans une position aussi humiliante. Je trouve ça beau. Et voilà qu'au cœur même de cette turpitude, je me mets tout à coup à chanter un hymne. Je suis peut-être maudit, je suis peut-être vil et abject, mais moi aussi je baise le bord de la robe dont mon Dieu est revêtu. J'ai beau au même moment être en train de suivre le diable, je suis quand même aussi ton fils, Seigneur, et je t'aime. Et je ressens la joie sans laquelle le monde ne peut tenir debout ni exister. On avait évidemment envie d'entrer par une voix, Sophie Bénèche, avec vous dans la traduction que vous faites de ce texte de Dostoïevski, celle de Dmitri, donc l'un des frères Karamazov. Leur romance commence par l'exposition d'une famille, et presque l'exposition donc de trois voix des frères et une autre voix. Est-ce que vous voulez bien, autour de cette table, nous les présenter, ces frères Karamazov?
Alors, c'est la famille, c'est-à-dire pas seulement les frères, le père aussi, qui est très important, le père Karamazov et ses trois fils. Ses trois fils légitimes.
Plus un.
Puisqu'il y en a un illégitime, semble-t-il. Et en fait, le livre, effectivement, commence par la présentation de ces quatre personnes qui vont se retrouver réunies pour la première fois, d'ailleurs, parce qu'elles se connaissent les unes aux autres, mais elles n'ont jamais été réunies ensemble. Et là, elles vont se retrouver réunies.
Voilà, le père n'a pas été un père particulièrement présent et attentif.
Il ne s'est jamais occupé de ses enfants. Il a eu trois enfants, un fils d'une première femme, deux fils d'une deuxième femme. Les deux femmes sont mortes. Et ses fils... On sont restés deux ou trois ans chez lui, et puis ensuite ont été élevés par d'autres personnes. Et lui, il les connaît pas, en fait. Il s'est jamais occupé d'eux. D'ailleurs, ça l'intéresse pas. Il veut pas s'occuper d'eux, quoi. Et ses trois fils se retrouvent, donc, brusquement, dans cette petite ville où ils habitent. Et ils se retrouvent dans un monastère. Le fils aîné, Dimitri, c'est l'impulsif. Celui qui est un peu fou, celui qui vient de parler, là.
Et celui qui dit « je suis un Karamazov », c'est intéressant.
Voilà, « je suis un Karamazov ».
Qu'est-ce que c'est Karamazov?
Le père aussi dit « je suis un Karamazov ». Le père est une sorte de bouffon, assez abject, qui s'amuse à être abject, à qui ça fait plaisir, justement, de choquer tout le monde. Le deuxième fils, Ivan... Lui, c'est plutôt, on le définit plutôt comme l'intellectuel, mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement tourmenté et qui est tourmenté par le problème du mal et de la souffrance, particulièrement. Et le troisième, Alyosha, le plus jeune, qui se destine à devenir moine, qui va sortir de son monastère, mais qui se destine à devenir moine au début du livre et qui est un personnage... qui, lui aussi, n'est pas si simple qu'il en a l'air.
Bon, personne n'est tout à fait simple.
Non, personne, même les gens, les êtres les plus purs ont des côtés noirs, et même les êtres les plus noirs ont des côtés...
Lumineux. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs.
Ouais, hein. Même le père, en fait. Même le père, il a son côté lumineux, c'est à force de jouer les bouffons et de mentir, c'est aussi qu'il est le seul à dire vrai, finalement, à être vrai.
Et puis, il aime le père, quand même. Enfin, il s'en fout peut-être un peu de ses fils, et d'ailleurs, ça demanderait à discuter, mais il est agité par un amour, quand même.
Oui, c'est un amour, il est obsédé par une femme. Il est obsédé par une femme, laquelle femme obsède également son fils Dimitri. Donc, ils sont des rivaux en amour, en plus, le père et le fils. Et le père va donc être assassiné. Il y a un quatrième fils qui apparaît, qui...
Qui est Smerdiakov.
Qui est Smerdiakov, qui lui est un domestique de chez le père, mais dont il est fort probable, il est même presque certain, qu'il est le fils illégitime du père Karamazov.
Illégitime et né d'un viol.
Et né d'un viol, en plus. Né d'un viol d'une simple d'esprit, en fait.
Venue accoucher dans son jardin,
oui.
Et morte.
Voilà, qui est morte aussi. Oui, les trois mères sont mortes. Et donc, le père est assassiné et tous les soupçons retombent sur le fils aîné, Dimitri. Le problème, c'est qu'on se rend compte petit à petit qu'en fait, tous les fils souhaitaient plus ou moins la mort de leur père, pas seulement Dimitri.
Mais d'ailleurs, je sais plus lequel des fils dit, mais qui ne veut pas la mort du père ? Qui ne veut pas la mort du père ? C'est l'une des grandes questions de ce roman Les Frères Karamazov, avec en sous-texte l'idée qu'on peut vouloir et éventuellement fantasmer et peut-être même s'emparer d'un pilon pour tuer le père, et que c'est pas tout à fait pareil que de passer à l'acte. C'est toute la tension de vouloir la mort du père et de tuer le père.
Tout à fait, oui. En même temps, ce que vous dites, ça... C'est également, c'est une des strates du roman, le parricide, les explications psychologiques de vouloir la mort de son père. Mais il y a une strate spirituelle, pourrais-je dire,
absolument,
qui relie aussi la mort du père à la mort de Dieu. C'est-à-dire la mort de l'autorité, en fait, la mort de quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui a l'autorité et qui a, qui sait ce qu'est le bien et le mal. D'abord, le sait-il, justement ? Et à quoi joue-t-il ce père, qui soit le père Karamazov, soit Dieu ?
Soit le grand-père, le grand-père avec le grand P.
Et que se passe-t-il quand on tue Dieu ? Que se passe-t-il à la fois dans une société où l'on tue Dieu et l'autorité, et que se passe-t-il dans un être humain qui tue son père et qui tue l'autorité et qui tue Dieu ? Enfin, c'est à la fois psychologique. C'est un roman qui est à la fois un roman policier, où c'est une histoire, effectivement, d'un meurtre.
Mais on ne s'en tient absolument pas à ça.
Psychologique, parce que qu'est-ce qui se passe dans un être humain qui vit cela ? Et spirituel, et plus que ça, social aussi.
Et philosophique,
qu'est-ce qui se passe dans une société où on tue l'autorité ? Question qui se pose encore aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui se passe ? Où le père est tué.
Et où on peut dire, d'ailleurs, parce que ce sera presque accusatoire, qu'est-ce qui se passe dans une société où on prononce la phrase « tout est permis » ?
Oui.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence ?
Tout à fait, oui.
Et enfin, à l'échelle, en effet, comme vous le dites, Sophie Bénèche, spirituelle et philosophique, c'est-à-dire...
Et pareil, est-ce qu'on a le droit de tuer ? Et c'est vraiment un livre qui pose énormément de questions, toutes les questions les plus importantes. Bon, je parle même pas de la liberté
et de la justice.
Et de la justice et du sens de la souffrance. Parce que Yvan se révolte contre Dieu parce qu'il n'admet pas la souffrance. Et il ne trouve que rien ne peut justifier la souffrance. Et effectivement, c'est une question qui nous tourmente depuis des millénaires, à mon avis.
Et la souffrance étant, on pourrait dire presque encore une fois, Sophie Bénèche, incarnée notamment par le sacrifice du petit corps d'un enfant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la question de la souffrance extrême. Et le roman se termine par un enterrement d'enfant. Et en effet,
la souffrance des enfants.
La souffrance des enfants est au cœur de ce roman-là, comme étant l'inacceptable de l'inacceptable. Ouais. Mais on y reviendra, puisqu'on parle de ces trois voix-là, ou trois voix quatre qui font quatre, plus la voix du père. Est-ce que vous diriez que pour Dostoïevski, ce sont... des voix qui permettent d'envisager autant de réponses possibles, chacune des voix comprenant peut-être plein d'autres réponses.
Tout à fait.
Aux grandes questions.
Tout à fait. En fait, c'est ça qui est...
Autant de nuances de réponses.
Qui est magnifique dans ce livre, c'est qu'en fait, il ne donne aucune réponse, mais chaque personnage donne comme des petits éléments, pas des éléments de réponse, mais en même temps incarne la richesse de la vie, en fait. Parce qu'il n'y a pas de réponse dans la vie, il n'y a pas de réponse claire et nette. Et c'est justement ça qui est tellement génial, c'est d'être arrivé à incarner ça dans un roman. Et quand vous le refermez, vous n'avez pas une réponse, mais en même temps, vous avez quand même quelque chose qui vous travaille et qui vous fait comprendre que s'il y a peut-être des formes de réponses qu'on peut trouver soi-même, et chaque personnage en donne une facette. Et en même temps, chaque personnage allant jusqu'au bout, il y en a un qui devient fou quand même, il y en a un qui se termine sur les fils, il y en a un qui termine par un suicide, il y en a un autre qui termine au bagne, le troisième qui termine fou. Et il n'y a que le quatrième, on ne sait pas ce qui va devenir.
Et puis globalement, à la fin, tout le monde est malade, fiévreux et, oui. et un peu délirant. Donc ça se termine en effet pas très simplement, mais rien n'est simple, vous l'avez dit.
Exactement.
Il n'y a aucune proposition qui est simple. Et puis, comme vous dites, on ne referme pas le roman avec des certitudes ou des réponses. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans les deux extrêmes, c'est-à-dire au plus profond, du plus noir, du plus vaseux, du plus dégueulasse,
ouais.
jusqu'à la plus haute des lumières, la plus
Exactement.
Grande spiritualité, ouais. la plus grande possibilité d'envisager l'amour, le pardon... Et on a, voilà, on a, ils nous ont permis de se promener sur cette grande arche possible de l'humanité.
Ouais.
Est-ce que quand on se lance dans la traduction d'un texte pareil, à un moment donné, on apprivoise qui est qui ? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est, par exemple, si c'était une palette de lumière ou une palette de peinture. Vous vous dites, ok, quand je traduis Alyosha, c'est cette couleur ou cette
oui,
voix.
Oui, non, parce que Alyosha, justement, il a des quelques côtés
mais tous,
sombres qui apparaissent.
Voilà, tous. Oui.
Et je vous dis, même le père Karamazov, parfois, il a Bon, je dirais pas qu'il a des côtés sympathiques, mais presque. Hein. Et puis.
Mais est-ce qu'on a trouvé leur voix à un moment donné ? Parce qu'ils parlent, ça parle tout le temps dans ce bouquin.
On cherche, ouais. Ils ont chacun leur façon de s'exprimer. Parce que oui, une des choses que j'ai comprises dans ce livre, c'est vraiment que la manière dont chaque personnage s'exprime dit énormément sur le personnage lui-même, plus presque que ses paroles.
Mm-hmm.
Je prends toujours l'exemple de la. Un des personnages qui est pas secondaire, mais enfin si, secondaire, qui est une femme, la mère d'une jeune fille, qui elle est fofolle, elle est complètement fofolle et elle finit jamais ses phrases. C'est-à-dire elle parle, elle saute du coq à l'âne, elle finit pas ses phrases. Mais en fait, la manière dont elle s'exprime, justement, le fait qu'elle termine pas ses phrases, ça en dit énormément sur elle, sur qui elle est, plus que sur le chaos qui règne à l'intérieur d'elle, la confusion qui règne dans sa tête et dans son âme. Ça en dit plus que ce qu'elle dit, effectivement.
Absolument. D'ailleurs, je disais en introduction que c'est un roman de l'ivresse du langage. Il y a vraiment une grande et communicative joie de lecture qui est liée à ça, mais qui a à voir, il me semble, c'est presque une sorte de grande cartographie des régimes d'élocution, Sophie Pénèche. C'est qu'on
Tout
a
à fait, ouais.
On a l'impression d'un paysage de comment on parle et qui parle et de quelle manière on parle. D'ailleurs, c'est assez impressionnant et important que le cadre du tribunal et de la justice soit quand même assez central dans le roman, puisque ce qu'on va dire de certains événements, comment on va pouvoir témoigner de certains événements, va beaucoup jouer sur la justice des hommes au regard de la justice divine, entre autres choses. Et tout ça, en plus, nous est livré avec la note de l'auteur que vous reproduisez. Donc, on est déjà dans le roman, on est d'accord, Sophie
Tout à fait, oui.
Cette note de l'auteur qui nous dit « Attention, méfiez-vous de tout ».
En entamant le récit de la vie de mon héros, Alexeï Fiodorovitch Karamazov, je me trouve assez embarrassé. Si moi, c'est-à-dire le biographe, je trouve que même un seul roman serait peut-être superflu pour un héros aussi modeste et aussi indéterminé, qu'est-ce que je viens faire avec deux ? Et comment expliquer une telle arrogance de ma part ? Comme je m'égare dans la façon de résoudre ces questions, je me décide donc à les éluder, sans les résoudre. Il va de soi que le lecteur perspicace a déjà deviné depuis longtemps que c'était dans mes intentions depuis le début, et je ne fais que l'agacer. Pourquoi est-ce que je gaspille de 20 mots et un temps précieux ? Je vais répondre à cela de façon précise. Si j'ai gaspillé de 20 mots et un temps précieux, c'est premièrement par politesse, et deuxièmement parce que je suis un petit malin. Je vous aurais quand même prévenu, si je puis dire. D'ailleurs, je suis même content que mon roman se soit scindé tout seul en deux récits, malgré l'unité essentielle de l'ensemble. Une fois qu'il aura pris connaissance du premier récit, le lecteur déterminera lui-même si cela vaut la peine de se lancer dans le deuxième. Et bien sûr, personne n'est tenu à rien. On peut abandonner le livre au bout de deux pages et ne plus jamais l'ouvrir. Mais il existe des lecteurs pleins de tact, qui voudront absolument lire jusqu'au bout, pour ne pas se tromper et porter un jugement impartial. Tels sont par exemple tous les critiques russes. Alors, vis-à-vis de cela, j'ai quand même le cœur plus léger. En dépit de tous leurs scrupules et de toute leur conscience professionnelle, je leur fournis le prétexte le plus légitime, qui soit d'abandonner au premier épisode du roman. Bon, voilà pour l'avant-propos. Je suis tout à fait d'accord qu'il est superflu, mais comme il est déjà écrit, autant le garder. Maintenant, entrons dans le vif du sujet.
Quand on se fait accueillir de telle sorte, dans un roman de 1200 pages Sophie Bénèche, ça fait quand même de notre place de lectrice et de lecteur un siège très incertain. C'est un gros manipulateur d'emblée, il dit « Vous pouvez continuer, lancez-vous, vous n'êtes pas obligé, mais allez-y quand même, et puis de toute façon, je ne fais que vous perdre, faire perdre un temps précieux et utiliser de vains mots, ce qui pourrait presque être la formule qualifiant l'existence. » À la fin, on pourrait presque se dire que Dostoïevski pense que la vie, c'est du temps précieux avec de vains mots, pourquoi pas. Quelle est la place de ce texte inaugural ?
En fait, je me dis que, comme il s'adresse directement à ses lecteurs, en fait, il fait entrer le lecteur dans le roman, directement. Il le fait participer, en fait, à son œuvre. Il lui donne une place, bon, c'est un peu banal de dire ça maintenant, que le lecteur, il fait vivre le livre, mais c'était moins banal à l'époque.
Oui, on est en 1880, et il dit, venez, vous n'êtes pas obligé, mais je vous laisse faire.
C'est un peu comme dans son autre texte magnifique, dont le titre est traduit de 40 de au moins 5 manières différentes, là, les notes dans un souterrain ou les carnets du sous-sol, où il s'adresse vraiment au lecteur dans un monologue. C'est quand même un des premiers monologues de la littérature avec l'auteur qui s'adresse de manière aussi directe.
Et insolente. Je sais que ça sert à rien ce que j'ai fait, provocatrice, mais bon, maintenant qu'on est là, allons-y. Enfin, ça veut dire aussi qu'ensuite, tout ce qui va nous être dit, et puisqu'il s'agit ensuite, et puis pareil, hein, il cite l'évangile de Saint Jean et la question de la vérité, comme dans ce livre, on va chercher la vérité quand même. Il y a beaucoup de personnages qui vont se demander quelle est la vérité. Et on a une première voix qui nous dit « Oui, bon, tout ça, finalement, c'est assez variable ».
Et oui, mais justement, c'est pas Balzac ou c'est pas ces auteurs du 19e qui étaient omniscients, qui savaient ce qui se passait à l'intérieur de leurs personnages. En fait, on a l'impression, et je pense que c'était le cas, que l'auteur lui-même n'est pas tout à fait sûr de ce qui se passe à l'intérieur de ses personnages. D'ailleurs, il les campe, il a une idée, et cette idée se transforme au fur et à mesure de l'histoire parce que ils le surprennent lui-même. Et tout le monde, personne n'est sûr dans leur main. Même le narrateur, il n'est pas sûr. Il sait certaines choses, mais d'autres, il ne les sait pas. Il est au courant de certaines choses, il a connu des personnes. On ne sait pas très bien qui c'est, ce narrateur, d'où il sort. Mais il n'est pas...
Des fois, il récupère d'autres livres pour raconter la vie, par exemple, du Staretz qui meurt. Ah bah, j'ai retrouvé un livre qui est venu, des notes qu'a pris, les dernières paroles. Et puis, souvent, dans les tirades, par exemple, les personnages disent « Bon, je suis complètement incompréhensible, vous n'allez pas me suivre. » Mais ou alors, ils sont bourrés, ou alors, ils sont fatigués, ou alors, ils sont malades. Il y a quand même ça aussi, on parlait de l'importance de la parole, mais cette parole, elle est soumise à des états de corps et des états de conscience assez modifiés, Sophie Bénèche.
Tout à fait, oui. C'est une chose étonnante d'ailleurs, c'est que les dernières traductions, enfin surtout les trois dernières, s'efforcent énormément justement de traduire la langue, enfin de faire comprendre que la langue de Dostoïevski, la façon dont ces personnages parlent est importante, alors que dans les premières traductions qui étaient très tributaires de la mode qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire de lisser un peu le texte, de le rendre accessible à des lecteurs français, de ne pas leur faire peur avec... un peu cette hystérie de langagière qu'on peut trouver chez Dostoïevski. Il y a quand même quelque chose qui est passé de Dostoïevski à travers ses traductions. Donc en fait, peut-être que les nouvelles traductions permettent de découvrir d'approfondir en fait le Dostoïevski qu'on connaissait en montrant que c'est pas seulement ce qu'il y a à l'intérieur de son livre, c'est pas seulement ce que disent ces personnages et ce que vivent ces personnages, c'est aussi la langue dans laquelle ils la vivent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des nouvelles traductions, je pense.
D'ailleurs, vous faites une note à propos de ce mot « hystérie », puisqu'il est très souvent utilisé, ce mot « hystérie », avant même qu'il donne le titre à une grande partie du livre. Et à ce moment-là, quand il donne le titre à une partie du livre, vous vous y attardez, Sophie Bénèche, dans une note assez conséquente pour discuter de ce terme, discuter de la récurrence qu'il a dans le texte de Dostoïevski. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et peut-être, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi du mot russe?
J'ai fait une note parce qu'en fait, le mot russe, qui correspond, je trouve, au mot hystérie, mais au sens premier du mot hystérie, ce mot russe a un sens presque très très concret au départ, et qui petit à petit devient psychologique. Et apparemment, d'après tout ce que j'ai pu voir, il est devenu psychologique à travers Dostoïevski. C'est Dostoïevski qui lui a donné une profondeur psychologique à ce terme.
Et au départ, c'est quoi?
Au départ, c'est un... Ça exprime une sorte de déchirement de faudrait que je relise la note que j'ai sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, hein. On l'emploie par exemple au moment où on sanglote, où on
c'est la voix qui est cassée,
c'est presque, quelque chose qui se brise à l'intérieur, qui fait que ça devient presque hystérique et nerveux. On est presque envie de vomir tellement...
Ça hoquette, quoi.
Comme quand vous êtes pris d'une toux, toux que vous n'arrivez pas à arrêter. Et que ça m'arrive aussi. On a l'impression que toutes ces entrailles vont sortir. Et en même temps, on n'arrive pas à l'arrêter, mais on la contrôle plus ou moins. Et c'est ce qui se passe du point de vue psychologique avec certains de ces personnages qui vivent... Et au sens premier, le mot hystérie, c'était ce que ça voulait dire. C'est que maintenant, on emploie le mot hystérie de manière beaucoup plus banale, si je puis dire. Et quand on dit hystérie, on voit pas
c'est autre chose. Qui
autre chose. Mais quand on regarde dans le dictionnaire, on s'aperçoit que c'est le sens premier. C'était ça, justement, une espèce de convulsion. Là, c'est une convulsion. Pas du corps, mais de l'âme.
Mais c'est presque d'ailleurs tout le livre qui convulse d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a une présence de l'épilepsie qui est assez importante dans le texte de Dostoïevski, qui était aussi importante dans la vie de l'auteur. Et il y a des crises qui sont simulées, puis des vraies crises. Si on se dit les frères Karamazov, c'est un corps, on peut presque le voir convulser au sol, enfin bouger de sa vie organique, Sophie Benesch.
Oui, c'est étonnant d'ailleurs de voir que le personnage qui est épileptique dans le livre, c'est Smerdiakov, ouais. C'est-à-dire presque le plus antipathique de tous les personnages, alors que l'épilepsie, Dostoïevski la connaissait dans son propre corps. Donc c'est encore une des mystères, mais des...
En tout cas, des transpositions de la biographie à la fiction
Et en fait, dans ses livres, il met une part de lui-même, et dans divers personnages, et parfois... il met ses pensées dans la bouche des pires personnages. Donc, en fait, on ne sait jamais qui parle. On ne sait jamais ce que pense vraiment Dostoïevski. Et... En fait, il pense tout à la fois. C'est pour ça qu'il est tellement riche. C'est qu'il est comme la vie, comme il dit lui-même. Il faut pas aimer le sens de la vie. C'est la vie elle-même qui est multiforme, qui est à la fois noire et blanche, lumineuse et sombre.
C'est son mouvement. Et c'est ça aussi l'ambition. Il disait qu'il y avait quand même aussi l'idée de produire un livre qui serait le mouvement d'une vie totale. Et donc, avec tout ça, c'est ce qu'on disait depuis le début, Sophie Benesch. Toutes les nuances de lumière et de sombre contenues en elle. Mathilde a lu Les Frères Karamazov, auditrice du Book Club, dans votre traduction, Sophie Benesch.
Bonjour le Book Club. J'ai profité de la nouvelle traduction que les éditions Zulma ont proposée des Frères Karamazov pour enfin me lancer, parce que c'est un livre qui me faisait un peu peur. Ce qui m'a vraiment surprise, et c'est ma question pour Sophie Benesch, c'est que c'est vraiment une lecture très fluide, pas du tout difficile, et je me demandais si c'est dû à son travail de traduction ou si c'est déjà présent finalement dans l'original. Merci pour votre réponse.
Merci Mathilde pour cette lecture et pour cette question, Sophie Benesch, la question de la fluidité. Alors c'est vrai qu'on a dit un texte très éclaté, mais une sensation de lecture fluide pour Mathilde, qu'est-ce qu'on en pense du côté du texte original ?
Alors... Moi, je trouve que ça se lit facilement en russe. C'est-à-dire, Dostoïevski n'utilise pas un vocabulaire compliqué. Et c'est des mots assez simples, et c'est des mots qui étaient courants au 19e, et quasiment tous sont très courants au début du 21e siècle aussi, en russe. Donc c'est pas... j'ai essayé de rendre quelque chose qui me donne la même impression qu'en russe. C'est-à-dire qu'en russe, j'ai pas une impression de langue violée, distordue. J'ai pas cette impression-là. Il y a une impression d'hystérie par moment, d'excitation, de gens qui savent plus comment s'exprimer. Ça, j'espère l'avoir rendu.
Franchement, je peux vous dire que des fois, j'avais l'impression de voir courir des poules sans tête avec une tête.
Voilà, c'est très bien. C'est très bien. En revanche, je trouve que ça ne m'est jamais arrivé en lisant le texte russe d'être obligé de relire deux fois la phrase ou trois fois la phrase pour comprendre.
D'avoir bien compris.
Qui est quand même, ça peut arriver, que vous lisez une phrase, vous êtes obligé de la relire deux fois pour bien comprendre. Ça m'est jamais arrivé avec Dostoïevski, donc je voulais que en français, il y ait pas les lecteurs français n'aient pas ce problème-là. Ils n'ont pas besoin de relire deux fois la phrase pour comprendre. Et je pense que une phrase qui me paraît aller de soi en russe, qui me paraît naturelle en russe, elle doit être naturelle en français. C'est pas, je cherche pas à copier, à garder l'ordre des mots du russe, par exemple, parce qu'en russe c'est comme ça.
Mais l'impression.
Voilà.
En revanche, cette langue vous a soumis, évidemment, et c'est pour ça que l'aventure de la traduction est une aventure intéressante et passionnante. On imagine, Sophie Bénèche, des problèmes, des questions, et vous nous en avez rapporté plusieurs. Par exemple, un problème lié à un sens ambigu d'une phrase capitale d'un roman. Est-ce qu'on s'attache à, par exemple, un exemple concret?
Oui, si vous voulez. Oui.
Alors celui-là, le mot à mot, donc je ne vais pas le dire en russe, mais c'est à vous de jouer.
« Avsyotaki bogojalka ». C'est très simple, il y a un, deux, trois, quatre mots en russe, comme d'habitude en français il y en a beaucoup plus. Et en fait c'est très parlé en russe, ça se dit naturellement. Vsyotaki bogojal, qu'on pourrait dire aussi qu'une personne. Là, en fait oui, je peux le traduire, il faut que je dise que mot à mot c'est mais quand même, Dieu, alors jal, que ça peut être traduit par on le regrette, on le plaint, on a pitié de lui. On a de la peine pour lui. Et ça, on pourrait remplacer le mot Dieu par votre nom, par exemple. Si vous arrive un malheur, je vous dirais, ou quand même, ça me fait de la peine pour vous.
Mais là, c'est pour Dieu.
Et en fait, faut se remettre dans le contexte. C'est en fait, Dimitri dit que
la science va pouvoir un jour tout expliquer.
Tout expliquer, donc on n'aura plus besoin de Dieu. Et là, il répond. Et il finit son truc en disant « Oui, c'est bien, c'est ce que je pense, mais quand même. » C'est triste. Alors, c'est triste pour Dieu. On plaint Dieu ou on regrette Dieu, ça peut être compliqué.
On a pitié de Dieu.
On a de la peine pour Dieu, on a pitié de Dieu et on le regrette.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme
choix ? Et en fait, moi, j'ai demandé à des Russes, et il y en a qui comprennent. Plus on regrette, donc plus on a pitié. C'est-à-dire, on regrette qu'il n'existe plus. Ou ça, on a pitié de lui, quoi, parce que le pauvre, il a plus de place, quoi. Et en même temps, en fait, ils comprennent les deux à la fois. Il reste une ambiguïté, mais ça, c'est un problème qui peut se poser de temps en temps en traduction, c'est-à-dire que dans le texte original, il y a une ambiguïté qui est voulue par l'auteur, peut-être, d'ailleurs.
Il faut trouver un moyen dans la langue d'arrivée.
Et parfois, dans la langue d'arrivée, on ne peut pas, on est obligé de choisir. Et on est obligé de choisir un des deux termes de l'ambiguïté. Et donc là, j'ai essayé, parce que là, il y en a qui ont dit « je regrette Dieu, je plains le bon Dieu, j'ai pitié de Dieu ». Et moi, j'ai mis « ça fait de la peine pour Dieu ». D'abord, en russe, c'est une expression impersonnelle, et moi, j'ai voulu garder le côté impersonnel.
Le côté ça, ouais.
Alors que les autres ont quand même « je regrette », ils ont choisi le « je ». Et je me suis dit que ça fait de la peine pour Dieu. On peut comprendre un peu les deux. On peut comprendre, ça fait de la peine qu'il soit plus là. Ça fait de la peine, le pauvre, on a plus besoin de lui.
Ça fait de la peine au sens où on aurait bien aimé qu'il reste.
Voilà, on peut comprendre les deux, en fait, selon la façon dont on lit, les deux à la fois, ou l'un ou l'autre.
D'autres problèmes de traduction. Alors, il y a un autre problème que vous souleviez, c'est la récurrence d'un S à la fin des phrases qui signe un certain régime de langage qui n'est pas facile à rendre en français, ou encore un jeu de mots intraduisible. Ça aussi, ça fait partie. Alors, on entendait dans la lecture de Cyril Marchand le côté un peu ironique, insolent. Il y a un jeu de mots qui vous paraissait très difficile à traduire. Lequel, par exemple ?
Alors, en fait, il n'y a pas... Comme je vous ai dit tout à l'heure, la langue de ceci est assez simple. Donc, ce qui est plus difficile à rendre, c'est plutôt l'intonation. Et des points un peu litigieux, comme ceux dont je viens de parler, là, il n'y en a pas énormément. Mais il y a effectivement quelque chose d'intraduisible qui est... donc, je ne sais pas si vous avez...
Un petit peu, on
peut expliquer. C'est qu'en fait, en russe, déjà au 19e siècle, c'est beaucoup moins courant maintenant, mais ça est arrivé qu'on rajoute un petit S à la fin de mots. Ça peut être à la fin d'un nom, à la fin d'un adjectif, à la fin d'un verbe. On rajoute un S qui gêne pas du tout dans la continuité de la lecture en russe. Et comment on fait pour le rendre? En fait, ce S remplace le mot sudar, qui veut dire monsieur, et en fait, il remplace le izvolte sudar, c'est-à-dire permettez monsieur. C'est une expression qu'on mettait, on introduisait à l'intérieur des phrases pour, comme signe de respect, comme signe de c'est une formule de
politesse,
de courtoisie.
Quoi. Courtoisie.
Et petit à petit, même assez vite, c'est devenu quelque chose d'un peu obséquieux. En général, ce sont les inférieurs quand ils s'adressent aux supérieurs, mais on peut l'utiliser d'un point de vue ironique, c'est-à-dire on faut faire semblant d'être un inférieur pour se mettre. Donc ça.
Et donc comment on fait avec ce S?
Comment on fait avec ce S? Parce que, et alors les premières traductions anciennes, elles ont tout simplement
oublié de traduire.
Elles n'ont pas traduit. Il faut ajouter aussi qu'il y a un jeu de mots en plus, parce que cette façon de s'exprimer, il y a un terme en russe, slovoyers, qui est le fait de mettre des S partout. Et le il y a un personnage qui met des S partout, justement, parce qu'il a un côté un peu servile, comme ça, il se... obséquieux vis-à-vis des autres, et il dit on pourrait au lieu de m'appeler en lui donnant son nom, il dit on pourrait m'appeler Monsieur Slovoyers.
Et ça, celui qui met des S,
celui
partout.
Qui met des S partout, quoi, enfin, ou le qui, monsieur, ou qui met des S partout. Et comment on peut traduire ça? Donc les anciens traducteurs, non, de toute façon ils ont passé ce passage, ils l'ont coupé, et les trois dernières traductions ont essayé chacun à leur manière de le traduire.
Vous avez dit tout à l'heure, Sophie Bénèche, qu'une des raisons qui vous faisait revenir aux frères Karamazov, c'était notamment la relation aux enfants. Je le disais, il y a la marmaille, il y a les mioches, il y a la jeunesse aussi des personnages. On va faire entendre un dernier extrait du texte. On est à la toute, toute fin du roman et on enterre un enfant. C'est Alyosha qui parle.
Mes chers petits pigeons, laissez-moi vous appeler mes petits pigeons parce que vous leur ressemblez tous beaucoup à ces jolis petits oiseaux gris. Maintenant, en cet instant où je regarde vos bons et chers visages, mes enfants chéris, peut-être que vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire parce que je parle souvent de façon incompréhensible, mais vous vous en souviendrez quand même. Et plus tard, un jour, vous serez d'accord avec mes paroles. Sachez donc qu'il n'est rien de plus grand, de plus puissant, de plus sain et de plus utile dans la vie qu'un bon souvenir. Surtout s'il vient de l'enfance, de la maison paternelle. On vous parle beaucoup de votre éducation, mais un souvenir comme ça, un souvenir magnifique, sacré, que l'on garde de son enfance, c'est peut-être la meilleure des éducations. Si on accumule beaucoup de souvenirs comme ça dans son existence, on est sauvé pour toute la vie. Et même s'il ne nous reste dans notre cœur qu'un seul bon souvenir, même cela peut servir un jour à nous sauver.
On est à la fin de votre traduction des frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski, Sophie Bénèche, et on peut dire qu'on a été à l'inverse de fréquenter des bons souvenirs dans la maison paternelle, on est d'accord. Et la manière dont Alyosha parle de ce que ça fait dans une vie de disposer de bons souvenirs d'enfance de la maison paternelle, on pourrait imaginer qu'il y a comme une ironie du sort. Or, Alyosha, il est assez premier degré, son cœur est assez pur. Vous avez dit que le rapport à l'enfance et aux enfants était une des lignes que vous aimiez suivre dans votre lecture des frères Karamazov. Pourquoi ?
Parce que Alyosha a une façon de considérer les enfants qui me touche beaucoup. Il y a un petit passage, je ne me souviens plus exactement où il est, où il parle, je crois que c'est Alyosha qui parle du fait, ou le Staretz, je ne me souviens plus.
Du le Staretz, c'est son maître spirituel
au monastère. Du fait que quand on croise un enfant dans la vie, il faut faire très attention à ce qu'on a à l'intérieur de soi et au regard qu'on porte. Il dit, quand vous croisez un enfant et si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous avez quelque chose de mauvais à l'intérieur de vous, vous rencontrez son regard et lui, il vous regarde. Je sais pas si vous êtes dans l'autobus et que vous voyez un petit enfant, il regarde tout. Il boit, il regarde les gens. Et si ce que vous lui communiquez dans votre regard est méchant ou est dur et en fait, lui, il boit, il avale ça et vous savez pas quelle graine vous avez planté en lui. Et donc, si un jour, quand vous croisez les regards d'un enfant, faites très attention à ce que vous lui faites passer. Il faut que ce soit quelque chose de lumineux parce que vous êtes en train de planter une graine. Je trouve que c'est un tout petit passage, mais qui m'a toujours beaucoup marqué et auquel je pense toujours à chaque fois, je crois, je le regarde un enfant dans la rue.
Mais c'est assez beau d'ailleurs parce que ça pourrait presque faire penser à des considérations antiques sur le risque ou le bonheur de pouvoir croiser un dieu sans le savoir. Et quand on sait le rapport qu'Alyosha a avec justement la croyance et la spiritualité, la figure de l'enfant, ça peut presque être aussi ça dont les frères Karamazov, évidemment c'est pas du tout que l'innocence, que la pureté, que la lumière, mais il y a quelque chose en effet en rapport direct avec l'humanité, Sophie Bénèche.
Oui, parce qu'ils sont extrêmement ouvert et disponible. Et mais même Yvan parle de, quand il parle de la souffrance des enfants, il à un moment il dit oui, on pourrait estimer que les enfants aussi sont coupables du péché originel parce que ils vont commettre des fautes quand ils seront devenus adultes. Mais quand ils sont petits, ils ont pas encore commis de fautes là, il a rien commis du tout, il est responsable de rien, le petit enfant de 5 ans. Et il parle des enfants avant, justement quand ils sont encore dans cet état de candeur en fait, de...
Et en même temps, évidemment, il ne se prive pas de montrer ni la violence, ni la cruauté, parce que il y a une scène incroyable où un enfant mord Alyosha, et c'est une scène assez mystérieuse, et on ne sait pas trop pourquoi il se fait mordre, il devient presque, ouais, une sorte de petit chien. Et puis il y a une autre scène où une bonne d'enfant met une épingle dans une mie de pain et regarde un chien se débattre avec cette épingle à la table.
Non, en fait c'est oui, parce qu'il parle aussi du mal dont sont capables les enfants.
Absolument.
Parce que le petit enfant dont qui est enterré à la fin du livre, lui, il est tombé malade en partie parce que il s'était amusé à mettre une épingle dans une boulette de mie de pain qu'il a fait avaler à un chien, et il pensait que le chien était mort de ça.
Comme quoi, il n'y avait pas d'innocence.
Comme quoi, il n'était pas si innocent que ça. Ouais. Donc, non, c'est très complexe, et c'est loin d'être simple, mais c'est ça qui est super magnifique, quoi. C'est-à-dire que c'est sans fond. À la fois, c'est pas de réponse, et en même temps, c'est quand même des réponses. La réponse, c'est la vie elle-même, quoi.
Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
Et comme chaque mardi à cette heure-ci est venue l'heure de vous retrouver, Mathilde Wagman, vous venez ici nous parler de littérature pour la jeunesse. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
On a noté que dans Les Frères Karamazov, il est pas mal question d'odeur. Alors on a assez peu parlé de ce corps, du Staret, ce fameux maître spirituel décomposé dont la puanteur inquiète énormément. Je pense à ce chapitre qui s'appelle « Odeur putride ». En tout cas, l'odorat est l'un des sens convoqués par Dostoïevski. C'est un sens que vous souhaitiez évoquer aujourd'hui, Mathilde.
Et oui Marie, je ne sais pas vous, mais pour ma part, je n'ai que très peu de souvenirs d'enfance. Mon plus ancien n'est pas tout à fait celui d'un événement, ni même d'un moment. C'est en réalité celui d'une sensation, une sorte d'impression indéfinissable, de béatitude, que j'ai un jour retrouvé intacte en longeant un parc. Je marchais le long des grilles de ce parc et soudain une odeur, celle d'une plante ou d'un arbre, m'a envahie, enveloppée tout entière, me procurant cette sorte d'extraordinaire bien-être que j'ai immédiatement associé à une émotion ressentie dans la toute petite enfance. Je l'avais éprouvée alors que, assise dans le jardin d'une maison en vacances, je jouais à des jeux d'imagination, baigné dans cette odeur délicieuse. Il m'est arrivé de très nombreuses fois par la suite de repasser par hasard dans cette odeur à proximité d'elle, et à chaque fois, boum, sensation divine de bien-être, souvenir de béatitude enfantine. J'ai fini par identifier ma Madeleine à moi, c'était le buis, cet arbuste que l'on trouve dans de très nombreux parcs et jardins et dont les petites feuilles dégagent cette odeur indéfinissable qui me replonge immédiatement 35 ans en arrière. Je dis indéfinissable, c'est une facilité. En réalité, on peut très certainement la définir, cette odeur. Encore faudrait-il avoir les outils, le vocabulaire pour le faire, mais j'en suis entièrement dépourvue, comme la plupart d'entre nous, je crois. Et pour cause, l'odorat est un sens qui n'est jamais ou quasiment jamais enseigné. Il ne figure pas dans les programmes scolaires, il ne fait dans nos contrées occidentales en tout cas que très rarement l'objet d'un apprentissage propre. On veille pourtant à l'éveil sensoriel des enfants, mais essentiellement autour de la vue et de l'ouïe, le nez, pourtant au milieu de la figure, reste largement ignoré. C'est ce à quoi entend remédier le livre dont je vous parle aujourd'hui, un formidable manuel d'éveil olfactif pour petits et grands, édité par l'association Nez en Herbe, qui œuvre à intégrer l'odorat dans les pratiques éducatives. Le livre est signé de 3 autrices, membres de cette association.
C'est quand même l'occasion directe de vous dire que j'ai exactement la même épiphanie olfactive.
Oh, souvenir ça, que c'est dingue.
Ouais, on y reviendra. Wow. Qu'est-ce qu'il enseigne, ce manuel, Mathilde?
Il établit d'abord ce constat si étonnant, si l'on y songe. L'odorat est un sens en marge, alors même qu'il est au cœur de nos capacités sociales, cognitives, de notre sensibilité, de notre plasticité cérébrale et de notre mémoire, comme mon anecdote du buis le prouvait et comme un certain Marcel Proust l'avait certes déjà noté avant moi. La philosophe Chantal Jacquet le rappelle en introduction, dans le développement du petit homme, c'est un sens qui pourtant préexiste à la vue. Un nourrisson voit flou à la naissance alors qu'il distingue déjà très nettement des odeurs, celles de ses parents notamment. La distinction entre celles que l'on appelle les bonnes des mauvaises n'a en revanche rien de naturel. Il suffit de voir la joie avec laquelle un tout jeune enfant peut porter une couche pleine à son nez. Mais précisément, le livre montre que l'éducation sensation à l'odorat, c'est tout autre chose qu'un manuel de savoir-vivre. Il propose toute une série d'ateliers à réaliser en classe, mais pourquoi pas aussi chez soi, avec des enfants de 3 à 15 ans, ateliers organisés en 6 grands chapitres et entrecoupés de textes d'historiens, de scientifiques, de médecins ou d'artistes qui livrent en lien avec chacune des grandes thématiques développées le compte-rendu de leurs expériences et nous apprennent mille et une choses. Savez-vous par exemple, Marie, ce qu'est un épithélium olfactif ?
Absolument pas.
C'est un tissu de cellules que l'on trouve tout en haut de chaque cavité nasale, recouvert d'un mucus qui contient plusieurs milliers de neurones capables de détecter les molécules odorantes. Autrement dit, c'est le véritable organe de l'odorat dont le nez n'est que l'enveloppe externe. On apprendra aussi que l'odorat est responsable à 80% de notre capacité à percevoir le goût. Tous ceux qui ont expérimenté l'agnosie olfactive au moment du Covid l'ont découvert douloureusement et qu'il a des vertus thérapeutiques notamment.
Alors, vous parliez aussi d'ateliers à faire avec les enfants. Mathilde, en quoi est-ce qu'ils consistent ces ateliers ?
Ils sont très simples à mettre en place. Ils peuvent se faire avec un matériel tout bête, des pots, des salières dont les petits trous laissent se dégager les odeurs et dans lesquels on va placer tout un tas d'éléments odorants de son choix. Chaque page présentant un atelier indique la manière de bien l'introduire auprès des enfants et illustre son déroulement avec des dessins simples et savoureux. Ainsi, on peut inviter les tout-petits à reconnaître un même élément placé dans deux contenants distincts, à exprimer leur goût ou des amours de telle ou telle odeur en leur faisant sentir une série de fragrances ou à organiser un blind test de senteurs, par exemple. Toute une série d'ateliers invite aussi les plus petits à créer à partir des odeurs en associant différentes matières odorantes que l'on broie dans un mortier, en dessinant à partir d'une odeur ou en constituant une olfactothèque pour la classe, faite d'une collection d'objets que chaque enfant aura ramené de chez lui et dont il trouve la senteur réconfortante. Une toute dernière partie du livre propose aussi d'explorer son quartier avec les narines et nous rappelle que les odeurs sont partout, y compris dans les environnements urbains. Bref, il s'agit avec ce manuel d'apprendre aux enfants à sentir et l'on entend dans la polyphonie du terme tout ce qui peut se jouer là. Sentir, c'est aussi ressentir, apprendre à mettre tout cela en mots, à le partager, à en faire un vecteur de connaissance, c'est tout simplement essentiel.
Et c'est pas sans lien avec tout ce qu'on a dit de Dostoïevski. On rappelle le titre ?
Ça s'appelle « Manuel d'éveil olfactif pour petits et grands ». C'est édité par l'association Nez en Herbe, coordonnée par Sarah Boisse, Alix Douchet et Amandine Vépierre.
Merci beaucoup Mathilde Wagman. Lecture jeunesse à retrouver sur le site France Culture et l'appli Radio France. Et on termine en vitesse, me dit-on, par une page musicale. On cherche de la musique dans les livres et on en a trouvé dans votre traduction des Frères Karamazov. Alyosha avait décidé d'attendre. Il avait compris qu'effectivement, tout ce qu'il avait à faire était peut-être ici. Mitya resta songeur une minute, le coude sur la table et la tête appuyée sur sa main. Tous les deux gardèrent le silence un instant. « Alyosha, dit Mitya, tu es le seul qui va pas rire. Je voudrais commencer ma confession par l'hymne à la joie de Schiller, Anne die Freude. Mais je connais pas l'allemand. Je sais juste que c'est Anne die Freude. » Ne crois pas que je bavarde comme ça parce que je suis ivre. C'est pas du tout à cause de ça. Le cognac, c'est le cognac. Mais moi, il m'en faut deux bouteilles pour être sous. Freude, 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 Schönage, Kaffungen, Tochter aus Elysium. Wir betreten feiertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Einen Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen wären Brüder, wo dein sanfter Flügel war. Einen Zauber binden wieder. C'est pas mal en fait de terminer par l'hymne à la joie parce qu'ils expriment chacun de ces personnages dans les Frères Karamazov aussi un rapport à la joie de vivre, toujours très bizarre, toujours très étonnant mais assez fervent. Sophie Benesch, merci infiniment d'avoir été là avec nous pour parler de votre traduction des Frères Karamazov de Fyodor Dostoïevski paru aux éditions Zulma. J'espère qu'on aura donné à tout le monde l'occasion de s'y replonger, d'y aller ou même de découvrir évidemment le texte. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à l'équipe du Book Club, notamment à Léa Weissgruss aujourd'hui, à Cyril Marchand pour ses lectures. Continuez à parler des Frères Karamazov sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Leibegovitch.